Voilà, bienvenue. Alors j'aimerais vous partager ce soir le dernier document que le pape François a publié. Ça s'appelle, selon un mot un peu particulier, l'exhortation apostolique post-synodale. Vous savez que quand il y a des rassemblements d'évêques, on appelle ça un synode, qui ont lieu régulièrement. Le prochain aura lieu l'année prochaine sur la famille. Il y a eu ce grand rassemblement qui avait été à l'époque encore placé sous la présidence du pape Benoît XVI sur la nouvelle évangélisation. Le pape Benoît XVI a institué un conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. C'était une grande idée que Jean-Paul II avait lancée en Pologne d'ailleurs. Enfin, l'évangélisation est une mission permanente que le Christ a confiée à ses apôtres. Hein. On ne fait rien de nouveau, on n'invente rien de nouveau. Quand Jean-Paul II avait lancé cette idée en Pologne, à Nowa Huta, de la nouvelle évangélisation, il avait dit: l'évangélisation est nouvelle dans ses formes, ses méthodes, ses techniques, mais quant au message, c'est le message universel du Christ, on n'a pas changé. Jésus, à la fin de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, va dire: allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Puis, se dérobant à leurs yeux, il les quitta. Voilà, donc on a cette scène merveilleuse qui est l'envoi en mission. Et sur cette parole, après avoir reçu l'Esprit Saint, les apôtres vont partir sur la terre entière. C'est une prodigieuse aventure avec ces 12 personnes qui ont transformé l'histoire de l'humanité. Il faut bien le reconnaître. Voilà, et donc l'Église sans cesse reprend conscience à des périodes de son histoire de la nécessité de revitaliser cet élan missionnaire, cette ferveur missionnaire. L'Église est par nature, par essence missionnaire. Et si elle perd cette ferveur d'annoncer la bonne nouvelle, elle est morte. Quelque part, elle s'occupe d'elle-même, elle s'occupe de ses structures, elle est repliée sur elle-même, il n'y a plus cette ferveur et cette mission qui est là. Voilà, alors Jean-Paul II avait lancé ce grand chantier de la nouvelle évangélisation. Benoît XVI a repris ça et le pape François reçoit en quelque sorte ce trésor pour le redonner à l'Église à travers ce document qui est vraiment empreint de son style, de son ton, de sa force vital. Et voilà, alors c'est un peu long de reprendre et ça fait ça. Ouais. Donc je vais pas vous le lire tout entier ce soir, rassurez-vous, et j'aimerais juste vous donner les grandes intuitions qui se trouvent dedans, et puis on passera rapidement sur un certain nombre de points que le pape François nous donne à lire. Et je crois que ce qu'on peut retenir fondamentalement de ce texte, c'est véritablement, à travers tout le pontificat de François, un retour à l'Évangile, une sorte de retour à cette ferveur originelle qui était là, à cette simplicité évangélique, à la personne de Jésus-Christ, si j'ose dire, dans son ton, dans ses paroles, dans sa façon de se comporter, une sorte de fraîcheur évangélique qu'il remet à l'ordre du jour. Ça a toujours été comme ça, vous savez, dans les grands renouveaux de l'Église, c'est comme ça que ça s'est fait. Quand saint Benoît fonde son ordre des bénédictins, qui s'appellera par la suite les bénédictins, c'était vraiment un retour à la ferveur évangélique, déjà bien avant. Quand les persécutions se terminent, jusqu'à la fin du troisième, enfin au début du quatrième siècle, les chrétiens vont se dire: mais comment faire pour vivre l'esprit des persécutions? Justement, c'était ça pour les chrétiens, c'était mourir pour le Christ. Il n'y avait pas tellement d'autres perspectives. On mourait pas tous et pas tout le temps, mais il y a quand même eu 10 grandes persécutions. Et pour les chrétiens, il y avait cette perspective qui est toujours en vue. Je risque un jour de devoir verser mon sang pour Jésus-Christ. Quand ça n'a plus été possible de verser le sang, parce que Constantin avait autorisé le culte, par une petite parenthèse avec Julien l'Apostat vers la fin du IVe siècle, le rapport s'est plus ou moins bien passé. Et donc les chrétiens ont dit: mais comment faire pour verser notre sang aujourd'hui, alors qu'on ne peut plus verser notre sang? Et c'était la vie monastique qui s'est développée, où quelque part on mourait dans le désert, on mourait dans les monastères, enfin on mourait au monde pour vivre à la vie du Christ et attester le primat du Christ. Et il y a une scène assez intéressante dans les monastères d'Égypte où on vient annoncer à un moine que ses parents sont décédés et qu'il va hériter une fortune. Alors il dit: mais est-ce qu'un mort peut hériter? Alors il dit: non, bien sûr, un mort peut pas hériter, puisqu'il dit: alors je suis mort depuis 20 ans au monde en étant au monastère, donc débrouillez-vous avec l'argent, distribuez-le où vous voulez, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Donc il y avait cette idée-là qui était là. Et Benoît, qui va réformer à l'époque de l'arianisme l'Europe, va redonner cet élan, ce primat du Christ, avec une œuvre civilisationnelle.